Vous êtes sur RTL.
Nick Tenza, merci beaucoup de venir. Il est 7h12, La Politique avec Olivier Bost. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors c'est le fait politique du week-end. Hein. La République En Marche retire sa liste en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et apporte son soutien à Renaud Muselier des Républicains. Qui seront les gagnants de cette opération, Olivier?
Ce matin, en fait, Yves, il est bien plus facile de dire qui sont les perdants, de toute évidence, les Républicains. Le parti, la famille politique, leurs réactions nombreuses et courroucées sont là pour en témoigner. Dire qui seront en revanche les gagnants est encore prématuré. Emmanuel Macron, qui fracture ainsi la droite, ou le Rassemblement National, Marine Le Pen, l'opposante numéro 1. Le résultat de cette élection en région Sud, mais surtout sa portée nationale, dira qui est le véritable gagnant de l'opération ralliement du week-end.
Pourquoi les Républicains seraient-ils les perdants à coup sûr?
Parce qu'ils perdent une région, ça c'est sûr, hein. Avant même le scrutin, le ralliement de La République En Marche à Renaud Muselier est un poison lent pour eux. D'abord, il peut être le début d'une longue série douloureuse. En région Grand Est, par exemple, ou en Aquitaine, en centre-Val de Loire, leurs candidats, en position délicate ou désespérée, ne sont pas loin de flancher. C'est terrible pour le crédit et la confiance des Républicains. D'autres trahisons sont possibles. Ce doute au régional alimente le scénario du pire pour la droite, le ralliement général de la famille en 2022. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a suggéré de soutenir directement Emmanuel Macron dès le premier tour l'année prochaine. Nicolas Sarkozy ne l'a pas exclu dans ses dernières déclarations. Les Républicains, qui cherchent leur place d'opposant entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sont piégés.
Mais pour ça, il faut quand même que la majorité présidentielle gagne des régions avec ses alliances.
Il ne faut effectivement pas réduire ce fait politique majeur à sa seule évidence. Les faiblesses ne sont pas seulement chez les Républicains. LREM a un potentiel électoral faible, à très faible, pour ses régionales. C'est aussi ce qui pousse à ces unions avec des candidats LR. Des alliances aux résultats incertains, nous l'avons déjà vu au municipal, elles donnent parfois des résultats négatifs, comme à Bordeaux, où les écolos l'ont emporté. Une part des électeurs LR et une part des électeurs En Marche n'adhéreront pas à la combine ou combinaison, à ce front républicain anticipé. Mais qu'importe, les l'effet psychologique est bien plus important pour le chef de l'État que le résultat dans les urnes en juin. À travers cette opération, Emmanuel Macron tente de transformer une faiblesse électorale en cheval de Troie pour grignoter la droite. Il veut empêcher l'émergence d'un candidat, Xavier Bertrand, ou d'une candidate, Valérie Pécresse, l'année prochaine. Ce qui compte, c'est 2022, l'élection présidentielle.
Merci beaucoup Olivier Bost. Deux rendez-vous politiques sur RTL aujourd'hui. Tout d'abord, dans notre matinale, dès 7h40, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui répondra aux questions d'Alba Ventura. Il restera avec nous également à 8h20 pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez nous appeler d'ores et déjà au 3210 pour le standard ou 64 900 code matin pour vos SMS. Et puis ce soir, dès 18h, c'est Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui sera l'invité de Thomas Soto sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h15. Dans 80 jours doivent démarrer les Jeux Olympiques à Tokyo, au Japon. Après un report l'an passé pour cause de pandémie, les Japonais s'apprêtent à accueillir le monde entier pour cette grande compétition sportive. Mais des doutes et des incertitudes demeurent du côté des organisateurs. Bonjour, bonjour Philippe Deva.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant d'RTL en Asie. Parmi les questions qui restent en suspens, il y a la présence du public, ou non d'ailleurs, dans les tribunes cet été.
Eh oui Yves, mais il va encore falloir attendre, patienter un petit peu pour le savoir, mais des jeux sans public, c'est une hypothèse que les organisateurs n'excluent plus dorénavant. La décision a été reportée au mois de juin, en fonction de la maîtrise ou non de l'épidémie, et on en est même à se demander si les organisateurs n'attendent pas que cette décision vienne de l'OMS, ce qui leur éviterait tout simplement de perdre la face.
Alors justement, l'opinion publique japonaise est-elle de plus en plus hostile à la tenue des JO cet été ?
Oh oui, à 80 jours de l'ouverture, l'ambiance n'est pas du tout à la fête populaire. Selon les derniers sondages, seulement 24,6% de Japonais seraient toujours favorables à la tenue des Jeux cet été. L'annulation pure et simple n'est plus un sujet tabou et il ne se passe plus une journée sans que certains titres de la presse quotidienne, plutôt indépendants du pouvoir, s'en fassent l'écho. Dans son édition du 28 avril, le Nikkei Asia, qui est l'équivalent des Échos, c'est un journal de référence des acteurs économiques, c'est aussi l'un des sponsors les plus importants des Jeux, et bien ce journal n'a pas hésité a dénoncé à son tour la cacophonie ainsi que les cafouillages du gouvernement, du comité olympique, en se demandant s'il y avait bien un pilote dans l'avion. Il faut dire, vous savez, Yves, que les gouvernements et les officiels multiplient les annonces, les contre-annonces, les maladresses, comme la demande récente de recruter 500 infirmières pour veiller sur les athlètes étrangers. La demande a enflammé les réseaux sociaux. Les internautes ont accusé le comité olympique de privilégier la santé des étrangers à celle des Japonais. Donc ce sont des Japonais désabusés, sceptiques et très critiques à l'égard de leurs gouvernants, incapables d'après eux de gérer les JO, l'épidémie et la campagne de vaccination.
Parce que les Japonais ont en plus un problème dans leur campagne de vaccination.
Ah oui, oui, un gros problème puisque les commandes ont été passées en retard. Donc le pays est à la traîne par rapport aux autres pays occidentaux. 17 millions de doses de Pfizer sont pourtant bien arrivées, mais seulement 3 millions d'habitants sur 126 millions, ont été vaccinés, c'est-à-dire à peine 2% de la population. 14 millions de vaccins sont en attente car rien n'a été prévu pour les administrer. Il n'y a pas de locaux, il manque du personnel médical. Des vaccins Moderna sont aussi arrivés, mais cerise sur le gâteau, ils n'ont pas encore passé les tests cliniques japonais, alors qu'ils ont passé tous les tests internationaux. Le gouvernement vient de décider de créer deux vaccinodromes. Ils ont vu ça à la télé, que ça se passait dans d'autres pays. Deux vaccinodromes à Osaka et Tokyo. Et ils font appel à l'armée pour essayer de rattraper ce temps perdu.
Bon, des Jeux Olympiques coûte que coûte, c'est ça ?
Ah oui, les pros JO ne reculent devant rien. Ils ont même sorti de leur chapeau des statistiques pour démontrer que chaque athlète court un risque sur 1,8 million d'attraper le Covid, beaucoup moins que d'être frappé par un astéroïde ou de périr dans un accident d'avion. Méthode Coué et des jeux quoi qu'il en coûte, car Yves, les enjeux financiers ne sont pas anodins. Les chaînes américaines ont versé des droits colossaux au CIO. Alors avec ou sans public, elles comptent bien retransmettre les jeux et empocher de très confortables revenus publicitaires. Elles ont même imposé la date des jeux qui correspond au seul moment où il n'y a pas de compétition de basket ou de baseball à retransmettre. Et puis enfin, Yves, les épreuves s'annoncent aussi très compliquées pour la santé des athlètes. En juillet, il fait une chaleur étouffante à Tokyo, le taux d'humidité avoisine les 90%, mais the show must go on, et ce n'est pas un hasard si, souvenez-vous, en 1964, les JO de Tokyo s'étaient déroulés au mois d'octobre.
Merci beaucoup Philippe Dova pour ce point très complet sur la situation au Japon, un paradoxal, et nous continuerons de suivre bien entendu la situation.